Monseigneur, merci infiniment d'être parmi nous ce soir. Vous avez un programme, je sais, très chargé. Vous avez ce soir cette émission, demain des rencontres, des rendez-vous, les journalistes, et puis vous serez samedi à Villepreux, où vous donnerez une conférence, je crois, à 15h, et vous vous retrouverez à Villepreux le dimanche matin pour une messe pontificale, et puis l'après-midi encore certainement une présence sur le site de Villepreux.
C'est ça, c'est un plaisir de retrouver Paris, la France, après quelques mois d'absence.
Alors,
d'abord, étant donné les événements politiques que nous subissons à peu près tous les jours, il est question d'élection, hein, il faudrait peut-être songer à complimenter Monseigneur, qui vient de, sinon de gagner une élection, du moins d'être réélu en quelque sorte.
C'est ça, j'ai pas cherché.
Vous êtes reconduit, vous l'avez pas cherché.
Non, on ne connaît pas les campagnes politiques chez nous.
Sans avoir fait campagne.
Non.
Est-ce que je peux dire, puisque j'étais donc tout de suite à la sortie de la salle capitulaire où vous avez été réélu, est-ce que je peux dire ce que vous m'avez dit à ce moment-là? Très familièrement, on m'a dit « ils m'ont eu ».
Si on veut.
Alors,
ça peut être interprété aussi d'une manière gentille.
Mais bien sûr. Certainement, on peut le dire tout de même, la marque d'une confiance. Vous aviez donc exercé cette fonction de supérieur général pendant 12 ans et vos capitulants ont pensé que vous pouviez à nouveau exercer cette fonction pour 12 ans.
Oui, ils l'ont vraiment pensé, je crois.
Et ils l'ont prouvé. Alors, monsieur, beaucoup de questions. La première m'est vraiment imposée par l'actualité. Vous en avez entendu parler comme nous depuis 2-3 jours dans la presse internationale, italienne, c'est vrai, peut-être plus particulièrement parce que Rome est en Italie. En France, ce matin, Hervé Yannou dans le Figaro, on parle de... Alors, on disait autrefois un décret sur la messe qui devrait paraître en novembre. On parle maintenant d'un motu proprio. Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous un petit peu cette annonce?
J'hésite. Depuis un certain moment, on nous a obligés à suivre l'attitude de l'apôtre saint Thomas. Disons depuis maintenant au moins une année. On nous dit, ça vient, c'est signé, c'est sur le bureau du pape, ça va sortir, et on recommence.
Et vous attendez de voir.
Et vraiment, j'ai plus du tout envie de dire ou de courir après ces bruits. J'attends de voir. Il y a certainement quelque chose de vrai, donc il y a quelque chose qui est effectivement en préparation. Contrairement à ce qui est dit, les sources les plus certaines, les plus sûres, comme par exemple la conférence épiscopale italienne, qui est quand même bien placée, nous dit que le document n'est pas signé. Des sources, encore une fois, romaines, d'un vaticaniste très très bien placé, lui nous dit qu'il est encore à l'étude, qu'il est déjà passé deux fois sur le bureau du pape, qu'il vient. J'ai vraiment pas envie de dire grand-chose, sinon d'attendre, tout simplement. Prions, ne nous affolons pas, restons calmes. Si quelque chose de bien se fait, ce sera pour le bien de l'Église. Et donc, que les personnes qui doivent le faire soient aidées par notre soutien spirituel, plutôt que par des supputations ou « ça va se faire, ça va pas se faire ».
Mais alors, peut-être faudrait-il dire, Monseigneur, ou vous, Monsieur l'Abbé, à ceux de nos auditeurs qui ne sont pas très au fait du problème que la fraternité a avec Rome, si ce décret, donc vous attendez avec impatience ou avec sérénité, la promulgation d'un décret, même si c'est un motu proprio, peu importe. Que devrait-il contenir et sur quoi devrait-il statuer? Ceci pour les auditeurs qui ne sont pas très au fait de ces rapports très subtils.
Voilà, donc il s'agit de la messe que nous disons traditionnelle, la messe comme elle était célébrée autrefois, En latin, on dit « do au peuple », mais on pourrait très bien dire « face à Dieu ». Avec le tabernacle, c'est-à-dire le bon Dieu à sa place, au milieu de l'église, au milieu de l'autel. Et donc cette messe qui prétendument aurait été interdite à l'introduction de la nouvelle messe en 1969, je parle ainsi car aujourd'hui à Rome on reconnaît qu'elle n'a jamais été abrogée, si elle n'est pas abrogée, elle n'est pas interdite. Néanmoins, donc maintenant on parle de la volonté du pape, qui je pense doit être considérée comme certaine, de rouvrir la possibilité de célébrer cette, donc la messe à l'ancienne. Jusqu'ici, cela se fait déjà. Donc il y a eu des documents romains qui ont ouvert mais une petite porte, même une toute petite porte. C'est ce qu'on appelle l'indulte. Dès 1984, il y a eu un indulte. En 1988, il a été un peu élargi. C'est ce qu'on appellerait l'indulte de 88 ou de Ecclesia Dei, qui est tout un mouvement qui a été initié par Rome en réaction au sacre de Monseigneur Lefebvre, qui a sacré à ce moment-là quatre évêques. Et donc aujourd'hui, on en arrive... Je pense qu'on n'est pas très loin, si les choses se passent normalement, d'un certain aboutissement. Je ne pense pas que c'est absolument la fin de toute cette histoire, mais on devrait arriver, enfin, à voir ce que disent les journaux et ce qui est concordant, à une liberté assez grande, peut-être généralisée, avec encore quelques limitations. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une libéralisation totale sans aucune restriction, car les évêques vont faire valoir certains droits et ainsi de suite, vont dire que ça mettra le désordre chez eux si on laisse les deux messes et ainsi de suite. Donc, néanmoins, on arrive petit à petit à tout simplement un acte de justice si on reconnaît, comme c'est le fait, que cette messe n'a jamais été interdite. Eh bien, on doit aussi reconnaître que chacun, tout prêtre, a le droit de la dire.
Puisqu'elle n'est pas interdite, elle est permise.
Et voilà. Et donc, c'est ce pas qui serait bientôt fait. On peut bien sûr y compter, une opposition farouche de tous ceux qui ont triomphé il y a 30 ans.
Ils existent toujours.
En tout cas, ils sont au poste du commandement. Et cela donc promet une certaine friction. Jusqu'où ira-t-elle? Je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup de la fermeté du chef. Si le Saint-Père, si le Pape, vicaire du Christ, élève la voix et dit « c'est ainsi », je parle en tant que Pape, je pense que plus ou moins rapidement, à peu près tout le monde se rangera. Si cependant, il suit le mode d'aujourd'hui, qui est le mode collégial, qui cherche le consensus de tout le monde, on risque d'être reparti pour un tour. Pour moi, il est évident que tous les bruits qui courent aujourd'hui desservent la cause. Jusqu'ici, tout s'est fait dans le silence. On voit même, on peut constater que ceux qui ont travaillé à Rome ont été soumis au secret. Et donc, le fait qu'aujourd'hui on parle éveille, alerte les opposants. Réjouit certes ceux qui l'attendent depuis longtemps, mais alerte surtout les opposants et les met en état de guerre pour faire tout ce qu'ils peuvent, pour jeter peut-être une dernière salve ou
faire pression.
Ou pas la dernière, justement, faire pression pour empêcher cela. Figurez-vous, déjà l'année passée, c'est assez intéressant parce que ça montre un peu comment l'Église est gouvernée aujourd'hui. L'année passée, il y avait le synode sur l'Eucharistie. L'une des personnes bien au placé, je ne peux pas dire plus précis parce que sinon on pourrait retrouver qui c'est, une semaine avant la fin du synode, donc bien placé dans le Vatican, était persuadé que à la fin du synode, ce fameux texte qui donnerait la liberté de la messe serait publié. Et donc, en moins d'une semaine, il s'est passé certaines actions qui ont torpillé.
Et empêché la publication
de ce texte. Peut-être que ce n'est un autre maintenant, mais en tout cas, cette intention de libérer la messe, elle est là depuis un moment, on peut dire elle est là depuis le début, elle est même là depuis avant le pontificat. J'ai juste sous les yeux, c'est une citation de... Il était encore cardinal à l'époque, du cardinal Ratzinger, aujourd'hui pape, qui parle de cette question de l'interdiction de la messe. Et qui tient une parole, je pense, très forte, qui peut expliquer pourquoi, aujourd'hui, on a le droit d'espérer, de Benoît XVI, qu'il va libérer la messe. Il dit ceci, « Une communauté se met elle-même en question quand elle considère subitement interdit ce que, jusque à très peu de temps, lui apparaissait comme sacré et qui en fait sentir comme un reproche le désir, donc le désir de cet ancien rite. Donc, pour lui, le simple fait de rejeter la messe comme ça s'est fait, c'est déjà remettre en question l'Église.
Et à quel Pourquoi moment le cardinal Ratzinger avait écrit ce texte?
Oh, c'est 2 ans avant son élection, son élévation.
Donc c'est récent.
C'est récent, tout à fait récent. Mais vous, pourquoi est-ce qu'on devrait croire encore? Est-ce que demain ne sera pas interdit ce qui aujourd'hui est prescrit? C'est bien dit, c'est bien dit, et ça dit beaucoup de choses.
Oui, jusqu'où ça pourrait aller?
Ben oui, effectivement. Et donc ça veut dire, on remet les choses un peu en ordre, on revient au droit. Sur ce point, on commence par là, c'est bien.
Mais alors, Monseigneur, dans l'état actuel, justement, du climat qu'il peut y avoir à Rome, comment interprétez-vous l'autorisation qui a été donnée à l'abbé Lagueri, dont je précise qu'il était prêtre de la fraternité Saint-Pédis, avant de s'en éloigner? Comment expliquez-vous l'autorisation qui lui a été donnée, ainsi qu'à 4 autres prêtres? Est-ce que c'est un premier pas?
Pas nécessairement.
Non.
Je crois que c'est une ligne de Rome depuis assez longtemps. Le cardinal Castrione me l'a dit ainsi.
Peut-être rappelez-vous ceci pour nos auditeurs.
Voilà, Castrione,
c'est celui qui est en charge du dossier Ecclesiadei,
et de la fraternité en même temps. Donc il me disait, lorsque je vois ces prêtres qui sont dans la nature, donc sans plus aucun lien ecclésiastique avec quelconque autorité, eh bien j'ai un problème de conscience, et s'ils s'approchent de moi, je me sens obligé de faire quelque chose pour eux. Et ça, je dirais, c'est une pensée contre laquelle il n'y a rien à objecter. Ça, disons même, on doit rendre hommage à ce souci de ne pas laisser perdus ces brebis, et donc de les remettre dans l'ordre. Je dirais, il n'y a rien à objecter à ce niveau-là. La seule petite nouveauté par rapport donc au nouvel institut, c'est qu'on leur a mis dans le statut qu'ils avaient un droit exclusif. Exclusif,
ça
veut dire que c'est un droit à l'exclusion d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de célébrer l'ancienne messe et qu'ils ont le droit de dire « je ne veux pas célébrer la nouvelle messe ». Donc on ne peut pas les forcer à la dire. Mais comme l'a dit le cardinal Ricard tout récemment, cependant, les supérieurs de telle communauté ne peuvent pas forcer, ne peuvent pas interdire à leur sujet la célébration de la nouvelle messe. Donc, droit exclusif à l'ancienne, ça ne les empêche pas de la célébrer, la nouvelle messe. Autrement dit, si vous voulez, on leur a fait un bel enclos. Nos ex-confrères prétendent que cet enclos est bien fermé. Le cardinal leur rappelle que la porte de cet enclos reste ouverte. Et vous savez bien que lorsque vous mettez quelques animaux dans un enclos avec la porte ouverte, la suite, tout le monde la connaît à un certain moment.
Ce que vous voulez dire, Monseigneur, c'est que ce qui s'était produit, ce qui, je crois, beaucoup déstabilisé la fraternité Saint-Pierre peut se reproduire avec l'Institut du Bon Pasteur. Parce que c'est ce qui s'est passé, les supérieurs ne voulaient pas voir leur sujet célébrer la nouvelle messe, mais Rome a donné raison aux sujets qui, eux, ont demandé à pouvoir dire cette messe.
Tout à fait, avec l'argument que la loi qui prime, c'est la loi universelle, c'est la loi générale. Or, aujourd'hui, la loi générale, c'est la nouvelle messe. Alors, qu'est-ce qui se passera au moment où on dit les deux messes ont les mêmes droits, comme on l'annonce ? Eh bien, le fait que l'on dise l'une ordinaire et l'autre extraordinaire dit déjà la réponse. Or, ce qui nous est annoncé, c'est que le rite nouveau sera déclaré le rite ordinaire, tandis que le rite ancien sera le rite extraordinaire. On précise qu'ils ont les mêmes droits, mais il y a quand même un regard extraordinaire aujourd'hui, ça veut quand même dire en dehors de l'ordinaire.
Alors, c'est vrai que le document n'est pas encore paru, ce motu proprio, on ne sait pas la teneur exacte, mais à vous entendre, ça n'est pas encore tout à fait le premier préalable que vous aviez demandé au pape. Rappelons un petit peu à nos auditeurs, donc, ce que vous venez de dire, effectivement, on l'a entendu même à cette antenne, le document qui n'est pas encore paru contiendrait l'affirmation « il n'y a qu'un seul rite romain avec une forme ordinaire, la forme Paul VI, et une forme extraordinaire, la forme Saint Pie V, et tous les deux ayant les mêmes droits ». Vous, quand vous avez demandé ce premier préalable, la liberté totale pour la messe pour tous les prêtres, ça n'était pas ça que vous envisagiez ?
Écoutez, là, il faudra vraiment voir le texte. Je ne peux pas exclure que le motu proprio pourrait correspondre à notre demande. Je ne peux pas l'exclure actuellement, mais j'en sais rien. Donc je ne peux pas vraiment, disons, aller plus loin pour l'instant.
Alors, ce préalable, on peut rappeler, vous avez été reçu par Saint-Père il y a maintenant un peu plus d'un an, c'était fin août 2005. Vous aviez dit que vous vouliez procéder par étapes, et dans ces étapes, vous avez dit avant tout deux préalables. Un, la levée du décret d'excommunication qui frappe les évêques depuis 88. On pourra peut-être préciser d'ailleurs que ce n'est pas une levée d'excommunication, mais c'est bien
le retrait d'un décret.
Le retrait d'un décret, d'accord. Et vous avez demandé pour tous les prêtres, pas ceux de la fraternité Saint-Pie, puisque eux disent la messe de Saint-Pie V, la liberté totale, la c'est possibilité ça. De dire cette messe. Vous avez, à l'issue du chapitre général, demandé aux fidèles qui sont attachés à la tradition de prier à cette intention. Vous avez lancé cette grande campagne, cette croisade du rosaire, ce bouquet spirituel, 1 million de chapelets offerts à cette intention-là au Saint-Père. Est-ce que la perspective de ce décret motu proprio rend caduque votre campagne de prière ?
Certainement pas. Et je pourrais même dire, si aujourd'hui, précisément, on parle de la possibilité plus ou moins imminente, ça on verra bien, d'un décret qui irait dans le sens de ce que nous demandons depuis si longtemps, eh bien c'est le moment de redoubler nos prières, car effectivement, en face de nous, nous n'avons pas que des amis ni des enfants de cœur. Et donc il faut vraiment demander au ciel, c'est une grâce que nous demandons là, c'est pas simplement un acte diplomatique, une concession, je ne sais pas, c'est pas un donnant-donnant, c'est pas une négociation, c'est vraiment pour le bien de l'Église que nous demandons à Dieu, au bon Dieu, cette grâce de la liberté de la messe, que les fidèles tous puissent enfin retrouver cette messe sans se sentir persécuté, honni, marginalisé, ou je ne sais pas, encore pire.
Alors, j'ai un message d'un auditeur, vous pardonnerez le franc-parler, mais nous sommes sur Radio Courtoisie et on parle en français. Des pisse vinaigres, dit-il, répandent sur Internet des libelles disant que le bouquet spirituel d'un million de chapelets serait une escroquerie, le décret étant déjà signé.
Eh bien, je n'étais pas du tout, disons, au courant du développement de ce fameux décret motu proprio au moment où nous avons lancé ça au chapitre. Et donc, les dernières relations que j'ai eues avec Rome, la dernière fois que j'ai parlé avec le cardinal Castrione, c'est le 15 novembre. Donc 2005, oui.
Donc, bientôt un an.
Et donc, tout ça, ce sont des élucubrations paranoïdes ou paranoïaques qui n'ont absolument aucune valeur. Non, il n'y a aucun complot, aucune négociation secrète. Au contraire, d'après ce que j'ai pu comprendre, à Rome, on est un peu fâché de ce que nous allions si lentement, si précautionneusement. Et bon, j'ai reçu un peu le message que la fondation de l'Institut du Bon Pasteur serait un peu un coup de pied du cardinal, un coup de mécontentement contre la fraternité.
Cardinal
Lodios, Castrione, oui. Bon, puisqu'il ne veut pas discuter avec moi, eh bien, je leur fais un coup. Bon, on peut le prendre, on peut le laisser, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est juste pour dire que ces histoires comme quoi il y aurait des accords secrets ou que cette demande de prière serait une supercherie, ça ne vaut absolument rien. Pour être gentil.
Alors, une question à laquelle vous avez partiellement répondu, je voulais justement vous demander, qu'en est-il des rapports avec Rome? Donc, l'audience, c'était fin août 2005. Là, vous nous dites que votre dernier contact avec le cardinal Castrionios, c'est le 15 novembre. Est-ce qu'il y a d'autres contacts? Qu'est-ce que vous avez en vue de ce côté-là?
Je pense que dans... Est-ce que ce sera encore cette année? Je pense probablement, oui, cette année. Il y aura de nouveau un contact avec Rome. C'est normal. Nous maintenons le contact. Nous le voulons. Mais nous le voulons dans un certain ordre. Et nous ne voulons pas que les choses se passent un peu n'importe comment. On a l'impression, justement, que cette érection, nouvel institut, était faite un peu n'importe comment. Sans trop... voir ou prévoir un peu tout ce qui pourrait se passer, et on constate que ça a provoqué une colère épiscopale ici en France assez impressionnante, dont finalement font effraie, bien qu'on n'ait peut-être pas obligé de lier les deux affaires, la fraternité Saint-Pierre.
Oui.
Je pense que les deux sont quand même liés quelque part. Pourquoi? Parce que les deux mouvements tendent quand même vers la tradition, veulent l'ancienne messe. Et que font les évêques actuellement en France? Ils essayent de réintégrer directement sous leur autorité, c'est-à-dire diocésaine, des mouvements qui étaient supradiocésains, qui étaient l'apanage de groupes... qu'on appelle Ecclesiadei, c'est-à-dire qui était directement sous Rome. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ont peur d'un plan romain qui se trouve peut-être lui aussi dans ce fameux motu proprio. On a de la peine à le savoir si oui, si non, quelque part entre les lignes, peut-être que c'est dit quand même, Rome a l'intention d'établir des administrations apostoliques du style Campos. Et c'est ce qui a valu une réaction assez forte des évêques français ce printemps, en disant que c'était inacceptable. Donc, disons ça, c'est pas une nouvelle révélation que je fais lorsque je dis ça, c'est tout à fait public. Et donc Rome, les évêques français savent que Rome a cette intention. Ils essaient de la rendre caduque en faisant disparaître les institutions, les chapelles qui ne seraient pas directement sous l'évêque, comme pour dire à Rome, écoutez, les traditionalistes, on s'en occupe personnellement, donc on n'a pas besoin que Rome vienne dans nos plates-bandes.
Oui, ce qui pourrait expliquer, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pas un fait énorme, mais justement dans la région bordelaise, puisque vous n'avez désigné personne, mais c'est dans cette région-là que les choses se passent, dès l'instant où il a été dit que l'Institut du Bon Pasteur, Saint-Paul, pardon, C'est Saint-Paul. C'est
l'Institut du Bon Pasteur.
L'Institut du Bon Pasteur. Le centre, voilà. Allait fonctionner. J'ai lu dans la presse que l'évêché avait reçu montagne de lettres de laïcs protestants. Ce qui paraît assez étonnant. On ne voit pas pourquoi des laïcs, tout d'un coup, se mêleraient de ces histoires s'ils sont laïcs et qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler des catholiques. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des manœuvres un petit peu cousues de fil blanc là-dessous. Est-ce qu'on n'a pas provoqué ces lettres de soi-disant laïcs pour protester contre le fait qu'il y ait une exception qui a été faite pour ne pas le nommer, l'abbé Laguérie.
Il faudra de toute façon certainement suivre la prochaine conférence épiscopale qui se réunit à Lourdes début novembre, où là il y aura certainement des prises de position. On verra certainement.
Vous voyez, beaucoup d'inconnus, mais un vrai combat. Lui, il n'est pas inconnu.
Oui.
Alors, je reviens un petit peu à ce que vous aviez dit après votre audience avec le Saint-Père, les étapes, les deux préalables. Vous dites vous-même à l'instant qu'à Rome, on vous trouve un peu précautionneux, pour ne pas dire trop lent. Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, en maintenant ces exigences doctrinales, cette discussion sur le fond, vous n'envisagez pas d'accord pratique? Je crois d'ailleurs que le chapitre général lui-même a bien rappelé ces choses-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que vous avez réagi à cette déclaration justement du chapitre général?
C'était tout simplement le rappel de la ligne que nous avions suivie. Donc, c'était beaucoup plus une approbation de ce que nous faisions déjà, avec une insistance, parce qu'on voit que facilement, les fidèles et même aussi les prêtres peuvent être tentés par des apparences. C'est sûr que j'appelle ça la tentation de l'officialité, c'est-à-dire être dans le mouvement officiel, être reconnu par les autorités officielles. C'est tout à fait normal. C'est pas seulement humain, c'est le droit même de toute société qui l'exige, qu'on vive dans cette approbation de l'autorité. Et le fait que nous, maintenant, depuis plus de, disons, en tout cas depuis 88, sinon même déjà avant, depuis le début de notre existence, nous sommes constamment en train d'être en biais, en opposition, en reproche à l'autorité officielle, ça peut enlacer. Ça peut enlacer plus d'un. Et donc, si, et au moment où cette autorité officielle fait un geste qui apparemment est un geste de bienveillance, beaucoup se disent, eh bien c'est le moment, il faut y aller, il faut accepter la main tendue, et alors on oublie tout. Et le malheur, c'est que où nous conduit cette main tendue, où nous conduit cette bienveillance romaine, qui il n'est pas nécessaire d'y voir une malice, c'est pas nécessairement de machiavélisme, c'est néanmoins tout un tas de sous-entendus que nous voulons entendre, dont nous voulons parler. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, Vatican II, c'est le début de l'Église. Même pour les prêtres. J'ai plusieurs exemples de prêtres, séminaristes, qui me disent qu'au séminaire moderne, tout leur enseignement, eh bien, en est resté, au point de vue des sources, c'est Vatican II, il n'y a rien avant. Ils n'ont aucune connaissance des encycliques, de l'enseignement, du magistériel, avant Vatican II. Donc Vatican II, c'est vraiment le début de leur Église. Et nous disons non, il y a 2000 ans avant, ou 1960, enfin bon. Et tout ce passé, c'est l'Église. Voilà, l'Église de Vatican II, je ne connais pas. L'Église catholique, elle n'est pas seulement universelle dans l'espace, elle est aussi dans le temps. Il y a quelque chose d'éternel dans les vérités qu'elle enseigne. On ne peut pas les changer. Et donc, tout d'un coup, on nous propose un accord, on nous propose bien, on fait la paix, mais le terrain dans lequel nous allons travailler, est-ce que c'est cette Église de Vatican II, ou est-ce que c'est l'Église de toujours ? Voilà la grande question qui n'est jamais vraiment abordée. Et c'est pour cela que nous disons, bien, commençons d'abord pour rétablir un tout petit peu de confiance, un minimum de confiance, pour pouvoir au moins pouvoir parler sans être obligé à chaque parole de se méfier de l'autre. Il y aura toujours un peu de méfiance quand même. Mais au moins, allez, dégageons un peu le terrain, changeons un peu l'ambiance, et après, allons au fond des choses. C'est ce que nous demandons. C'est pour cela que nous ne sommes pas pressés pour faire un accord qui serait simplement un coup de vernis et qui cacherait ou qui ferait oublier le vrai problème qui, dès le lendemain, réapparaîtrait. Regardez simplement ce qui se passe dans l'Institut du Bon Pasteur. Regardez le nombre de problèmes dans lesquels ils se sont mis maintenant. Eh bien, j'aimerais pas être à leur place.
Et c'est sous-entendu, est-ce qu'on peut les préciser? Vous dites effectivement, globalement, c'est l'idée que le concile est indépassable et qu'il faut faire avec. Et, mais sur quel point précis vous sentez qu'une collaboration serait vraiment difficile?
On voudrait, disons, absolument nous faire accepter, tout d'abord, sur le concile lui-même, les nouveautés, sur ce qui a été introduit comme nouveau au concile, il nous faudrait l'accepter. Et c'est ce que nous rejetons. Ce nouveau, c'est d'abord un nouvel esprit. C'est assez difficile à décrire un esprit. C'est un mode de vie qui est accommodé au monde. On voit bien l'Église aujourd'hui, c'est une Église facile, beaucoup plus facile qu'autrefois. Alors on dit qu'on a rejeté les interdits, mais ce n'étaient pas des interdits autrefois. Mais, bien sûr, la vie a ses exigences, la vie chrétienne a ses exigences, et nous maintenons cela, disons, l'esprit chrétien, eh bien, c'est s'unir à Jésus dans son sacrifice. Ça veut dire la croix, ça veut dire la souffrance, ça veut dire accepter toutes ces petits ennuis, ou grands, gros ennuis, que la divine providence permet ou nous donne chaque jour, qu'on appelle la croix. Hein, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix tous les jours. Voilà, c'est le programme du chrétien. Aujourd'hui, il faut aller loin pour entendre un tel langage dans les églises officielles. Or pourtant, ça, c'est l'esprit chrétien. C'est le fondement même de la vie chrétienne. Vous avez ensuite, si vous voulez, tout un tas de développements, où, disons, notre position est peut-être plus précise, parce que c'est des choses plus dogmatiques, comme la manière d'expliquer l'exercice de l'autorité dans l'Église. Nous tenons, avec ce que l'Église a toujours enseigné, qu'il y en a un seul dans l'Église qui a le pouvoir plénier, suprême, et c'est le pape. On nous dit schismatique, mais nous serions schismatiques parce que nous affirmons qu'il y en a un seul qui a tout le pouvoir et c'est le pape. C'est comme une forme, enfin c'est comme ça. Et aujourd'hui, enfin disons, le concile a voulu flanquer à cette autorité qu'il reconnaît une espèce de double tête. Alors là c'est un tout petit peu compliqué, mais cette fois-ci le pape avec les évêques. Or, nous connaissons cette situation d'une autorité qui s'exerce de manière actuelle, du pape et des évêques, c'est le concile. Là, les évêques ont un mot à dire, ils votent même sur des questions donc doctrinales, et ils votent avec le pape, sous le pape évidemment, mais ils sont là, ils ont leur mot à dire. Et cette nouvelle, disons, ambiance ou système de gouvernement, on appelle ça la collégialité. Autrefois, on disait, bon, ben, le pape est là pour toute l'Église, et chaque évêque dans son diocèse. Donc aujourd'hui, on veut attribuer à chaque évêque une responsabilité sur toute l'Église. On peut dire, bon, c'est déjà Pie XII qui en a parlé, c'est vrai, dans un sens limité, c'est vrai aussi, mais laissons au pape sa responsabilité personnelle, de la même manière qu'il faut laisser à l'évêque sa responsabilité personnelle sur son diocèse. Aujourd'hui, on veut démocratiser tout. C'est aussi un mot qui peut expliquer ce que c'est que la collégialité. Donc il faut partout des gremiums qui vont intervenir par vote délibératif, donc qui vraiment décident, et qui ainsi blessent, gênent l'autorité personnelle qui est de droit divin, c'est-à-dire qui est dans l'Église, voulu par notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il l'a fondé. Il a donné une seule tête, c'est Pierre. Il a des apôtres qui sont les évêques, il leur a aussi donné un pouvoir, bien sûr, qui n'est pas le même que celui de Pierre. Et donc ça, c'est un des points qu'on appelle aujourd'hui la collégialité, contre lequel nous battons. Il y en a, on peut dire, deux autres qui sont cette fois-ci la relation avec les autres religions. Aujourd'hui, on a voulu aborder cette question des autres religions de manière positive.
Je ne l'ai pas retenu. Je dois
alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, on va dire, regardons d'abord ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Alors, on va souligner les bonnes choses qu'on trouve dans les autres religions. Et nous disons, ben évidemment, il y a des bonnes choses. Le mal absolu, si sur Terre, ça n'existe pas. Dès que vous avez un homme, vous trouverez quelque chose de bon chez lui. Même si c'est le pire des mécréants, vous arriverez encore à trouver quelque chose de bon. Et ainsi, dans les religions, les autres religions, vous trouverez quelque chose de bon. Mais c'est pas ça qui va arranger les choses. Si on veut arriver à gagner ses âmes, il faut souligner les points qui ne vont pas, les points qui sont en contradiction. Il faut en discuter. C'est ainsi qu'on arrivera à les dépasser. Si on ne fait que de regarder les bonnes choses et qu'on oublie ce qui ne va pas, on n'arrivera jamais à s'entendre. Ou ce sera une entente de polichinelle.
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ben quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est un petit
peu. Le faire. Et j'ai une petite note, cet auditeur était très ému. Vous avez peut-être un ou deux autres messages, Glenn, non ?
Question, je crois. Attendez, moi-même, justement, puisque nous sommes là dans ces questions qui fâchent, il faut dire, mais franchement,
bien sûr.
On peut dire que Monseigneur Lefebvre n'a pas envisagé de gaieté de cœur les décisions qu'il a dû prendre, il n'était pas la question simplement de latin ou d'encens ou de soutane, c'était vraiment des questions de fond, questions qui fâchent, mais parce qu'elles portent sur la doctrine. Et si l'on revient un petit peu à l'entretien que vous avez eu avec le Saint-Père et les étapes que vous avez mises en place, vous n'envisagez pas, et le chapitre général l'a rappelé, d'accord pratique tant que ces questions n'auront pas été évoquées et peut-être même résolues. Alors on a envie de vous poser la question, mais vous attendez que la crise soit finie pour pouvoir faire quelque chose pour l'Église?
Bien évidemment que non. D'ailleurs, il faudrait rappeler que l'Église, ici sur Terre, on l'appelle l'Église militante. Cela veut dire qu'il y aura toujours de la bagarre. L'Église doit toujours se battre, toujours se défendre. Et ça, c'est jusqu'à la fin des temps et c'est garanti. Autrement dit, quand nous aurons dépassé cette crise-là, ben, il y en aura d'autres. Peut-être y aura-t-il des temps de paix, mais il y aura tout le temps du travail. Le diable, qui est celui qui préside du côté donc hostile au bon Dieu et à l'Église, c'est un esprit. Un esprit n'a pas besoin de se reposer. Et donc c'est garanti que nous aurons à nous battre. Et donc nous n'allons pas attendre que tout soit résolu dans l'Église avant de dire cette fois-ci ça va. C'est évident, parce que sinon il faudrait attendre après, enfin le jugement dernier. Non, ce que nous demandons, ce que nous voulons vraiment vérifier, c'est que les principes qui ont conduit, qui ont présidé à Vatican II et qui ont conduit à la, disons, démolition, décadence que nous constatons aujourd'hui, eh bien que ces principes, au niveau du principe, donc comme principe, soit déconnecté. C'est-à-dire qu'on reconnaisse que non, c'est pas ça. Que les principes qui doivent régir l'Église ne sont pas ceux-là. Il faut voir les choses autrement. Parlons d'écuménisme. C'est évident qu'il faut essayer de convertir ces gens-là. Mais c'est évident pour nous, ça saute aux yeux quand on dit vous voulez rester dans votre coin, mais pas du tout. Il faut donc avoir une relation avec ces autres religions et que même pour un premier pas, on essaie de souligner les bons points qu'ils ont pour les attirer, pour faciliter la discussion, très bien, mais qu'on n'en reste pas là.
On va perdre son âme pour autant.
Exactement. Et après, il faut aller à l'essentiel, il faut aller aux choses sérieuses. Et donc tout ça, bien sûr, il faut le clarifier. Parce que je pense qu'on est aussi dans une époque de... le combat, s'est, je veux dire, hiératisé. Il est devenu solide. On est marqué par des étiquettes. Et tout de suite, on vous dit, Monseigneur Lefebvre, ah, pof, c'est, je sais pas quoi, le super intégriste, le rebelle, l'excommunié, le schismatique, etc. Et on regarde même plus l'argument. Et donc, je pense que peut-être nous faisons la même chose avec en face, au moins en partie. Et donc, il faut réussir à bien éloigner, disons, à enlever ce qui n'est que superficiel pour aller vraiment au vrai problème et pour en discuter sereinement. Je pense que si on arrive jusque-là, ce sera aussi plus facile. Parce pourquoi ? Nous ne voulons pas imposer notre point de vue. Nous voulons simplement que l'Église soit l'Église. C'est-à-dire que l'Église éjecte ce poison qui a été inoculé, qui est le poison, disons, moderne, et qu'elle revienne à l'enseignement de toujours, à ses principes de toujours, qui sont ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, il est Dieu, c'est le Sauveur, c'est le seul Sauveur, il est venu pour nous sauver à cause de nos péchés, donc il y a des péchés, ça existe. Ces péchés sont extrêmement dangereux parce qu'ils nous conduisent en enfer si on reste attaché à eux. Et le seul qui puisse nous sauver, c'est notre Seigneur. Si nous voulons être sauvés, il faut donc suivre notre Seigneur et personne d'autre. Notre Seigneur qui a fondé l'Église, et donc il faut aller à l'Église catholique. C'est tout un tas de principes qui aujourd'hui sont complètement démolis. Aujourd'hui, on vous dit, soyez un bon bouddhiste et tout ira bien. Eh bien non, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Oui. Et donc vous voyez, il faut, c'est un combat qui va au plus profond. Je pense qu'on n'est jamais allé aussi loin dans l'attaque des principes même du catholicisme comme dans notre époque, aujourd'hui. Je ne dis pas que tout vient du Concile. Effectivement, il y a aussi le monde. Il y a beaucoup d'éléments qui sont entremêlés. Vous voyez, la crise de l'Église aujourd'hui, elle est accompagnée d'une crise du monde entier. C'est pas tout la faute de l'Église, évidemment. Donc on ne peut pas dire que tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église est la faute de Vatican II. C'est vrai, mais le problème est que Vatican II a voulu faire sienne un certain nombre de principes, de lois, qui sont les lois du monde moderne, révolutionnaire, finalement qui est anti-Dieu. Et c'est ça qui ne va pas, et c'est ça qui fait mal à l'Église, et c'est ça qu'il faut enlever. Du moment que le principe vrai est reconnu, et que l'Église dit ça ne va pas, voilà, cet église tel qu'il est fait, ça ne va pas, alors on peut commencer à travailler. On peut dire, bon, cette fois-ci, on y va. Mais tant que cela ne sera pas dit, effectivement, il n'y aura pas de possibilité.
Et bien entendu, Monseigneur, je pense que vous êtes tout à fait disposé, s'il fallait se retrouver autour d'une table pour reparler de ces problèmes tels que vous venez de les évoquer, vous seriez disposé à reprendre le dialogue.
Mais c'est ce que nous demandons.
Oui.
Et donc, bien sûr, nous sommes disposés à le faire.
Et même si c'était bientôt.
Tout à fait, oui. Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Ouais, un auditeur qui nous dit, bien sûr, l'Église est instituée pour prêcher l'Évangile. Et ce que nous évoquons, ce sont des questions de théologie, des questions dogmatiques. Et il se demande un petit peu, est-ce que nous n'oublions pas la mission d'Église, l'esprit missionnaire? Qu'est-ce que la fraternité fait dans... Est-ce que vous êtes toujours dans une bibliothèque à feuilleter le droit canon? C'est ça ce pourquoi vous avez été réélu pendant 12 ans?
J'aimerais être un peu plus dans ma bibliothèque, en fait. D'ailleurs, le chapitre, le désir, pas nécessairement la bibliothèque, mais en tout cas, d'être davantage à Menzingen plutôt que d'être par Mons et par Vaux. Bien sûr, il faut trouver là un équilibre entre ces deux aspects. Il faut être à la maison pour gouverner, c'est normal. Mais il faut aussi savoir ce qui se passe sur place. Aujourd'hui, on me dit bien que c'est le monde de la communication. Mais encore aujourd'hui, rien ne vaut le passage sur place. Donc, en fait, nous avons ce souci des âmes. Et quand on regarde un peu l'élan missionnaire qu'on trouve chez nous, nous sommes établis dans 30 pays. Nous nous occupons en plus... On dit en général 30 pays, enfin en tout maintenant nous avons plus de 65 pays dont nous occupons. Ça veut dire que donc chaque prieuré, ou disons chaque pays occupé, en a un deuxième dont il doit s'occuper, rien que ça déjà. C'est énorme, bon, c'est une moyenne. Et ça n'arrête pas, ça continue. On va même dans les pays persécutés, où il y a la persécution, enfin, les prières, enfin, nos prêtres, ils me donnent des sueurs froides des jours, quand j'entends ils sont passés. Et pourtant, bien non, ben, il faut le faire, c'est justement, il faut annoncer notre Seigneur au risque de notre vie, bien sûr, avec prudence, c'est pas défendu, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Et donc, je crois vraiment que cet esprit missionnaire est là. C'est vrai, d'autre part, je le reconnais, que nous sommes un petit peu comme une petite fleur sous l'orage. Si vous regardez les fleurs, lorsqu'il pleut, elles se referment. Eh bien, nous, les condamnations, les méchancetés ecclésiastiques, nous sont tombés dessus pendant des années, et ce qui fait que la tradition, par réflexe, s'est un peu refermée. Et c'est parfaitement normal. On ne peut pas attendre le contraire. Cependant, il y a quand même cet appel à aller plus loin, et cela a toujours été fait. Disons, il n'y a pas de moment, je vois, où disons, il y aurait eu régression dans la fraternité. Je prends l'ensemble de la fraternité, partout et tout le temps, je vois une progression, toujours plus, toujours plus loin. On n'est pas encore allé chez les Esquimaux, je ne sais pas quand ça va arriver, mais je n'en doute pas.
Quels sont les pays, Monseigneur, où l'accueil est le plus ardent, disons, vis-à-vis de du traditionnalisme et des prêtres de la fraternité? Est-ce que c'est l'Amérique du Sud ou inversement dans des endroits qui nous étonneraient?
Eh bien, j'aurais envie de dire que c'est l'Asie.
Là?
L'Asie. Je pense que le pays ou le continent qui a la plus grande vivacité, la plus grande soif de la foi aujourd'hui, c'est l'Asie.
Oui, ben c'est étonnant justement.
Et vous savez, je n'espère qu'une chose, c'est que nous ayons des dizaines et des centaines de prêtres supplémentaires pour pouvoir en envoyer quelques-uns là-bas. Disons, nous avons bien déjà besoin ici, mais aussi là-bas, aussi là-bas. On voit vraiment des merveilles de grâce, on en voit partout, mais là-bas il y a une fraîcheur dans la foi, il y a un désir de connaître la foi, de connaître notre Seigneur, qui rafraîchit l'âme sacerdotale.
Ils ne sont pas blindés comme les vieux peuples.
Ah non, 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 ce blindage là-bas, ça n'existe pas. Il y a vraiment une ouverture, bon, aussi accompagnée de... Bon, de réaction, des fois aussi un peu violente, quoi. Les pays qui ne connaissent pas le catholicisme peuvent être des fois un peu violents. Je parle de l'Inde, par exemple.
En Indonésie,
oui, par exemple.
Les gouvernants ne sont pas tendres hein, avec les catholiques.
Et finalement, vous savez, un peu partout, on peut être assez dur, hein, mais néanmoins, au milieu de tout ça, justement, on voit ce qu'on a toujours vu dans l'Église. Ces âmes qui... à temps et à contre-temps, dans la tempête, partout, bien, vont à notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui les a créés. C'est le Créateur. Et la marque de fabrique, elle se trouve dans chaque âme.
C'est un bon signe.
Et notre Seigneur, il est mort pour tous, pour toutes ses âmes. Et quelque part, dans le cœur du prêtre, de tout prêtre, il doit y avoir ce désir d'en gagner le plus possible, de faire que ce sang de notre Seigneur, que le prêtre fait couler chaque jour à l'autel, eh bien, profite à ces âmes, à toutes les âmes du monde entier.
Nous sommes en France, Monseigneur, on sait que le séminaire de Flavigny donc, vient de réouvrir ses portes, 25 nouvelles vocations, 2 frères, 23 séminaristes. Sur ces 23 séminaristes, il y a 18 Français. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, en tant que juge général? Comment est-ce que vous voyez un petit peu ces vocations? Jamais assez, j'imagine, mais...
Exact.
Et qu'est-ce que vous attendez? J'attends toujours plus.
Oui, effectivement, toujours plus. Néanmoins, disons, j'en tire plusieurs leçons. En tout cas, une, c'est qu'il ne faut pas essayer de baser beaucoup de conclusions sur des chiffres. Voyez-vous, on pourrait dire, mais regardez maintenant, là, vous avez cet institut du bon pasteur qui est fondé, vous avez ceci, vous avez cela, donc forcément, la fraternité, ça doit aller mal. Ben, regardez, voilà, une quantité de séminaristes qui nous arrivent, aux États-Unis, c'est à peu près le même chiffre.
On vient d'entrer, vraisemblablement.
Donc nous comptons 23 séminaristes. En fait, ils sont beaucoup plus nombreux parce qu'il y a aussi l'année de ce qu'on appelle l'humanité, qui est un donc pré-séminaire. On prépare, on complète ce qui manque chez certains. Donc ils sont plus de 30 à être rentrés cette année, mais 23 en première, en année de spiritualité.
Et également 23 en France. Il y aura aussi une rentrée à Goulburn.
C'est au mois de mars. Donc ça, c'est un peu décalé, quoi.
Et l'Arrera aussi en Argentine.
Voilà, les deux sont au mois de mars.
Donc ça fait bien. Monseigneur, notre entretien se termine. La tradition veut que vous nous donniez, si vous le voulez bien, votre bénédiction.
Bien volontiers. Sit nomen Domini benedictum.
Exactum que tus quae seculum.
Sanctorum nostrum in nomine Domini.
Fecit felum et terram.
Benedictio de omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maniat semper.
Amen. Merci, Monseigneur.
Merci, Monseigneur. Merci, messieurs les abbés. Et merci aux auditeurs de Radio Courtoisie qui ont envoyé toute la soirée des messages pour des condoléances à cause de la mort de Jean Ferret. Jean Ferret, il n'a pas de famille à qui on puisse transmettre ses...